France Culture.
Une femme échevelée, le visage égratigné, haletante, entrait hier soir au commissariat de Boulogne-Billancourt.
Paris Soir, septembre 1936.
Une révolte vient d'éclater au pensionnat, s'écria-t-elle. J'ai pu seule m'échapper. La surveillante chef et la cuisinière chef sont ligotées. Venez vite. Le commissaire et quatre agents sautèrent dans une voiture et arrivèrent quelques minutes après au pensionnat. C'est en réalité une maison de redressement moral, maison austère qui s'élève au 107 de la rue de Billancourt. Des barreaux de fer bouchent les fenêtres. Des murs d'une hauteur impressionnante entourent la maison et son jardinet. 40 jeunes filles vivent là. Ce sont toutes des enfants acquittés par les tribunaux, mais mises jusqu'à leur majorité dans une maison de correction.
Les évadés de Billancourt. Michel Pomarède, Gilles Blanchard.
7 pensionnaires venaient de s'échapper. Les agents se mirent à leur poursuite et, avec l'aide de quelques témoins bénévoles, réussirent à les capturer. Hurlant, trépignant, les révoltés criaient et l'une d'elles, couvrant le bruit, cria au badaud « À nous, nous voulons la liberté !»
Premier épisode, 17 filles d'un coup.
Soyons précis. Dans le contingent de 1935, 8 furent mariées, 25 retournèrent dans leur famille, 13 furent placées. En septembre 1936, l'effectif était de 25 jeunes filles. 17 s'enfuirent.
On est en plein Front populaire, on est en pleine grève du printemps-été 36.
Et l'historienne Véronique Blanchard.
Léon Blum a pris la tête d'une coalition, le Front populaire. Ce moment très particulier après l'hiver 34, où nombre d'hommes de gauche, que ce soit la SFIO ou le Parti communiste français, ont eu très peur d'une prise de pouvoir par la droite extrême en France. Donc, en février 36, il y a une marche violente de l'extrême droite de l'Action française vers l'Assemblée nationale. Il y a une prise de conscience des hommes de gauche qu'il va falloir s'unir parce que la République est en danger. Les hommes de gauche s'unissent, font front, programme commun, on pourrait dire, un peu anachronique, mais quand même, et ils se présentent ensemble aux législatives qu'ils gagnent haut la main, et Léon Blum devient le chef du gouvernement. Et puis là, il y a un moment de flottement, parce qu'il gagne début mai, et il n'est investi qu'en juin. Et il va y avoir des énormes grèves qui vont s'installer dans la France ouvrière, dans la France commerçante, dans la France agricole. Et donc, le 7 juin, Léo Blum arrive, il met en place tout de suite les rendez-vous de Matignon, qui vont donner les accords de Matignon. Première rencontre très importante entre un gouvernement, des syndicats et des patrons. Et là, c'est toutes ces mesures qu'on connaît, qui sont restées symboliques, 40 heures de travail par semaine au lieu de 48 heures, les congés payés, les conventions collectives dans les entreprises. Mais la grève va se poursuivre encore quelques jours jusqu'au moment où Thorez, chef du Parti communiste, va dire « il faut savoir arrêter une grève ». Et là, les choses vont petit à petit redescendre. Et à la fin de l'été, avec en plus les premiers congés payés, les choses s'apaisent un peu. Voilà, et c'est dans tout ce contexte-là que les filles prennent la tangente à Billancourt.
Celles qui furent l'objet de recherches dans les rues de Paris étaient au nombre de 8. Il s'agissait de Odette Gaillard, née en 1920 à La Souterraine, Creuse. Fernande Martin, née en 1918 à Chantilly, Oise. Annie Major, née en 1919 au Havre, Seine-Inférieure. Marie-Louise Tissandier, née en 1918 à San Rafael, Argentine. Henriette Labrie, née en 1918 à Paris. Germaine Labesse, née en 1920 à Courville, Eure-et-Loir. Gilberte Lassalle, née en 1919 à Paris, Paulette Métras, née en 1919 au Havre, Seine-Inférieure. Leurs signalements furent donnés à tous les postes de police de la région parisienne.
Pourquoi on enferme les mauvaises filles ? Pour plein de raisons qui sont spécifiquement liées à la question du féminin, à la question du contrôle social sur le corps des femmes et sur le corps des filles. On les enferme parce qu'à certains moments, leur famille, la société, les juges, l'Église va considérer, que ce soit au XIXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 50, que certaines jeunes filles ne respectent pas les normes de genre, les règles qu'elles devraient respecter. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez sages, qu'elles ne sont pas assez pures, qu'elles ne sont pas assez vierges, qu'elles ne sont pas assez obéissantes. Ça, c'est la bonne fille, celle qui accepte soumission et réglementation autour du corps féminin et autour des attitudes féminines.
Dans la soirée d'hier, le poste de police secours à la mairie du 15e arrondissement était alerté par un appel téléphonique de la maison de redressement de jeunes filles mineures, la préservation de la femme, 107 rue de Billancourt, à Boulogne-sur-Seine, où une bande de louches individus, massés à la porte d'entrée, se livraient à un siège en règle dans le but de libérer les détenus. L'arrivée soudaine des agents, sous la conduite du commissaire de police du 15e arrondissement, mis en déroute les énergumènes dont la plupart, après quelques orions bien appliqués, furent entassés dans les cars de la police. C'est alors que le commissaire de police pénétra dans l'immeuble pour rétablir l'ordre et y trouver une surveillante et la cuisinière soigneusement ligotées, toutes deux par des révoltés. Le magistrat apprit alors que 9 pupilles de l'établissement, après leur coup d'audace, avaient pris la fuite.
Il régnait dans ses articles un odieux parfum de délation et de traque. Selon la vieille stratégie du diviser pour régner, le petit Parisien, chef-d'œuvre de Tartufferie selon André Breton, partageait le contingent féminin en deux, les méchantes fugueuses qui avaient entraîné les gentilles, ces dernières suivant le mouvement.
Beaucoup de jeunes filles, malgré tout, ne vont pas accepter ces normes de genre ou vont faire des petits pas de côté par rapport à ces normes de genre. Et alors, la société, les familles, la législation, que ce soit au XIXe siècle ou au XXe siècle, va mettre en place le placement, l'intervention judiciaire, l'enfermement pour réguler ces comportements. On a beaucoup dit que les garçons, on leur reprochait ce qu'ils faisaient et les jeunes filles, on leur reproche en fait ce qu'elles sont. Donc il y a quelque chose dans l'ordre, je vais le dire comme ça aujourd'hui je crois, dans l'ordre masculin, dans l'ordre de la domination, dans l'ordre du patriarcat qui tente de disciplinariser, de discipliner plutôt il faudrait dire, le corps de ces jeunes filles, les attitudes de ces jeunes filles et le fait qu'elles soient le plus soumises possible. Et à partir du moment où cette soumission n'est pas acceptée ou n'est pas évidente, ben, on va avoir des lois comme la correction paternelle, comme la protection en vacabondage, comme les arsenaux pénaux qui vont permettre d'enfermer ces jeunes filles pour de très longues années dans des institutions extrêmement disciplinaires.
Ailleurs, c'était devenu tout d'un coup Billancourt. Fuir la vieille maison de correction était une promesse d'avenir, de liberté, de poésie. C'était fuir le vieux monde dont on ne peut plus continuer à subir le joug. C'était presque un mot d'ordre.
Est-ce qu'on leur reproche, en fait, Véronique Blanchard, leur désir ?
Waouh ! Alors, est-ce qu'on leur reproche leur désir ? Je ne suis pas du tout sûre que ce soit des termes qu'on puisse employer pour le 19e siècle, parce qu'on ne pense pas réellement qu'une jeune fille peut avoir des désirs. Mais en même temps, c'est une belle façon de poser les choses. Oui, je pense qu'on n'imagine pas qu'une jeune fille ait des désirs, et ces désirs ne sont pas légitimes. Désir de liberté, désir d'émancipation, désir d'aimer, désir de vivre. Oui, c'est des désirs qui dérangent la société du 19e siècle en particulier, et du début du 20e siècle, et c'est des désirs qui peuvent conduire à l'enfermement de ces jeunes filles.
Marie Rondepierre, résumons l'événement. Septembre 1936, 17 jeunes filles s'échappent d'une maison de redressement. Certaines sont reprises, d'autres non. Qui est la directrice ?
C'est Marcel Génia, qui est une actrice, une comédienne assez connue pour l'époque, et qui joue au même moment la pièce de Hellman, Les Innocentes.
Cette pièce, ça raconte quoi ?
C'est une intrigue dans laquelle deux directrices d'un pensionnat de jeunes filles vont être accusées par une enfant d'avoir un comportement anormal et effectivement, pour l'époque, il s'agit d'homosexualité en fait. Ça n'était jamais évoqué directement dans la pièce, mais il s'agit de ça.
Comment je pourrais résumer Fugopus 36 d'Éric Rondepierre ? D'abord dire que c'est une écriture magnifique qui va croiser à la fois une grande connaissance d'Éric Rondepierre sur les années 30, le Front populaire, la question de l'enfermement des enfants, et en particulier la question de l'enfermement des filles, le surréalisme. Voilà, donc c'est une écriture comme ça, mêlée à la fois de connaissances et d'un vrai sens de la littérature. Éric Rondepierre écrit merveilleusement bien dans cet opus. Et puis après, c'est l'organisation, c'est trois parties avec trois portraits. Le portrait de la directrice de l'établissement devant le policier qui essaye d'expliquer la situation, puisque là, un certain nombre de jeunes filles se sont évadées et qu'en même temps elle doit jouer au théâtre. Enfin, tout ça est très compliqué. Donc voilà. Elle s'appelle Madame Géniale.
Nonobstant une carrière bien remplie, Madame Génia de la Comédie Française était soucieuse d'améliorer le sort des déshérités. D'abord lectrice, puis économe dans des institutions de jeunes filles, très naturellement ses préoccupations philanthropiques l'amenèrent à diriger une institution pour mineurs placée par la justice. Elle était heureuse de participer à la relève de ces filles perdues, comme on les appelait. Quelle monstruosité rôdait derrière cette dénomination ? Quelle réalité cachait-elle ? Marcel s'aperçut assez vite qu'hormis les orphelines et les déficientes, les filles perdues de cette époque étaient classées en trois grandes catégories : la voleuse, l'hystérique, la prostituée. On pouvait trouver beaucoup de sous-ensembles. La fugueuse, la rebelle, la vagabonde, la dépressive, la syphilitique, la déficiente. Mais la triade était solidement ancrée sur le pénal, la santé et les mœurs. C'était pratique pour juger et condamner. Quels étaient les moyens dont disposait l'éducation pour redresser ces jeunes filles et leur permettre d'intégrer la société sous de meilleurs auspices ? Une autre triade qui avait fait ses preuves. Enfermement, discipline, travail.
Concernant le redressement des jeunes filles, c'est vraiment la question d'un redressement à la fois physique et moral. D'abord un redressement moral, hein, puisque ce sont des mauvaises filles, elles ont pris le mauvais chemin, elles ont péché, elles sont, comme le dit très bien Éric Rondepierre, des filles perdues. Et donc, il va falloir remettre une bonne moralité, redonner une bonne moralité à ces jeunes filles perdues. Et tout le redressement est axé sur cette bonne moralité à retrouver, même si on n'y croit pas beaucoup. Hein, voilà, c'est le but. On n'est pas totalement certain d'y arriver. Et puis, bien sûr, le redressement de la moralité, ça passe par le redressement du corps féminin. Alors, redressement du corps féminin qui est pensé comme un effacement du corps féminin. On a là des corps pubères, des corps en plein éveil, on va le dire comme ça, et on va tenter de totalement invisibiliser ce corps, annuler ce corps, humilier ce corps, et donc tout le redressement physique par l'enfermement et par l'humiliation du corps va être très réel et très concret.
Huit des jeunes évadées n'ont pas été retrouvées. Leurs compagnes d'aventure comparaîtront aujourd'hui devant le président du tribunal pour enfants. Madame Marcel Génia, directrice de l'œuvre, a exprimé le vœu que cette rébellion provoque les mesures indispensables de discrimination entre les enfants améliorables et les incorrigibles. Les huit mauvaises filles qui, samedi soir, au cours d'une rébellion mouvementée, s'enfuirent de la maison de redressement de Boulogne-sur-Seine n'ont toujours pas été retrouvées. La plupart d'entre elles ont sans doute eu le temps de gagner Paris et d'y trouver refuge chez un ami ou chez une parente à qui leur évasion ne parut pas assez grave pour qu'on y mette aussitôt un terme en prévenant la police. Mais il n'est guère d'exemple que des fugues semblables soient de longue durée et il est peu probable que se prolongent beaucoup pour elles ces vacances mal acquises. Ce boucher des Halles chez qui Gilberte Lassalle, sautant d'un taxi, fit irruption samedi soir, fut plus ferme et moins pitoyable lorsqu'il remit la jeune fille rebelle entre les mains des agents.
Ces filles-là, moi je les ai cherchées dans les archives et en fait il n'y a nulle trace. L'association qui a pris la suite de cette maison de redressement, ils ont fait des recherches aux archives de Haute-Seine. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucune trace, aucune fiche de toutes ces filles. Donc elles ont disparu corps et bien aussi.
Oui, et puis de toute façon, dès qu'on demande des dossiers, surtout d'enfants placés, en général, on vous répond qu'on ne trouve pas le dossier.
Oui, par rapport au régime du Bon Pasteur, ou celui des écoles de préservation, Clermont, Cadillac, Doullens, la discipline de l'école ménagère de la rue de Billancourt est plus humaine. L'établissement obéit à une rigueur différente. Quand on punit les pensionnaires, on les enferme dans leur chambre, au pain sec et à l'eau. Comme par ailleurs, elles y sont cloîtrées quand elles ne travaillent pas, c'est-à-dire toutes les nuits, et le dimanche, elles n'aiment pas les dimanches, ça leur rappelle les punitions. Mais, ajoutait-elle, il n'y avait pas de supplice, pas de coups, d'humiliation, pas de visage badigeonné d'excréments humains, de bouses de vache, d'urine. Pas de signe de croix dessiné avec la langue, 50 ou 100 signes de croix à plat ventre sur le sol des lieux d'aisance. Et surtout, plus de cachot noir. Elles avaient même droit à une sortie chez leurs parents tous les 3 mois.
C'est très intéressant parce que là, Éric Grandpierre, il met en lumière, soi-disant, les différences qu'il pourrait y avoir entre les bons pasteurs, qui sont vraiment la congrégation en France, qui va avoir le monopole de la prise en charge des jeunes filles déviantes et délinquantes pendant tout le 19e et une grande partie du 20e siècle, les écoles de préservation, qui sont que 3 en France, qui sont publiques, laïques, et qui vont être des lieux de la très grande discipline pour certaines mauvaises filles, et puis ces écoles ménagères, qui sont finalement des initiatives individuelles, laïques, comme s'il y avait un degré dans les sévérités de ces institutions, un degré progressif, école ménagère, bon pasteur, école de préservation. Avec son style, Éric Grandpierre montre bien que c'est une façon de présenter les choses et que la réalité, elle est quand même très commune à cet enfermement des jeunes filles. Et il y a une forme d'ironie terrible dans le texte de Grandpierre pour dire à quel point, bien sûr, certes, sans doute, les jeunes filles, d'ailleurs à Cadillac non plus, hein, les jeunes filles ne sont pas avec de la bouse sur la tête, mais certes, c'est pas l'extrême discipline à Billancourt, mais enfin, il y a quand même un enfermement terrible de ces jeunes filles. Il y a un enfermement dans la chambre tous les soirs, un enfermement tous les dimanches, et oui, elles n'aiment pas le dimanche. Il y a très peu de communication entre les jeunes filles, il y a un travail très important demandé à ces jeunes filles, il n'y a aucune communication avec leur famille. Enfin bref, on est dans un système de très grande répression.
Donc Marcel Génia était venu faire de la lecture dans cette maison de redressement. Elle est devenue après économe et ensuite on lui demande de prendre la direction. Donc elle dirige des jeunes filles qu'elle enferme et puis sur sa liberté à elle, elle va jouer au théâtre. Qui entend parler de cette histoire ?
Peut-être est-ce Jean Rougeul, par l'intermédiaire de Jacques Prévert, qui avait informé André Breton de cette évasion de jeunes filles qu'il trouvait à son goût. Chacun avait apporté des journaux, ils avaient tous été lus, digérés, commentés, avec une cruauté particulière. Les surréalistes ont toujours été de grands lecteurs, et il y avait des articles dans Comédia, Paris Midi, Paris Soir, L'Œuvre, Le Petit Parisien, L'Écho de Paris, Excelsior, Le Figaro, L'Intransigeant, Le Matin, L'Humanité.
Ce qui est très intéressant, que pointe peut-être pas totalement Éric Rompierre là, mais moi qui m'a beaucoup intéressée dans cet événement sur Billancourt, c'est que dans le même temps quand même, hein, quelques années avant, en 1934, c'est Belle-Île en mer, Éric Rompierre en parle, quelques mois après, en 1937, c'est la mort de Roger Abel, et les journaux s'émeuvent de manière très forte du sort réservé aux enfants dans les maisons de redressement et les maisons de correction. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a finalement peu d'écho sensible sur la révolte à Boulogne, en dehors des surréalistes et de Prévert, parce que c'est des filles. Et les filles, c'est pas comme les garçons. Et le fait que des filles s'échappent, que des filles mauvaises, en plus qu'elles entraînent des gentilles filles, enfin des gentilles filles, des maisons de correction, je sais pas trop, mais ça provoque une panique qui fait que les médias, là, ne sont pas dans une émotion en disant bah, « tout ça est totalement normal, les enfants ne peuvent que s'enfuir de ces lieux-là ». Ils disent ça pour Belle-Île-en-Mer, ils disent ça pour Hesse, ils ne disent pas ça pour Boulogne-Billancourt.
Quant à André Breton, ce fut assez rapidement que lui et ses amis se mirent d'accord sur quelques mots d'ordre, expliquant à Léo Mallet les techniques de sabotage qu'ils avaient mises au point depuis les années d'Ada. C'est donc très habité par une rage d'en découdre qu'ils arrivèrent au lieu-dit.
Le lieu-dit, Véronique Blanchard, c'est le lieu où se produit Marcel Géniat, qui joue donc Les Innocentes et qui va être prise à partie par les surréalistes.
Les Innocentes se jouaient au Théâtre des Arts, boulevard de Batignolles, pas très loin du domicile d'André. La première surprise fut de rencontrer de vieilles connaissances qui étaient au courant de cette évasion et qui, visiblement, avaient eu la même idée qu'André. Notamment Georges Bataille, qu'il n'avait pas revu depuis l'affaire de Contre-attaque. D'autres encore qui avaient eu vent de cette histoire par la presse. Tout le groupe surréaliste n'était pas venu, mais en comptant le contingent venu d'ailleurs, les intrigants s'étaient retrouvés finalement une bonne quinzaine dans la salle à avoir payé leur billet, et non pas une trentaine, comme l'a dit la presse, pour assister à cette pièce adaptée d'une auteure américaine dont ils ne connaissaient rien.
Tout se déroula normalement jusqu'au deuxième acte, plus précisément au moment où Marcel Géniat rentrait en scène dans son rôle de grand-mère pour accueillir sa petite fille qui vient de faire une fugue. Que se passe-t-il, Marie ? Pourquoi n'es-tu pas à l'école ? Marie, incarnée par Jeannie Holt, se précipite alors vers elle et la serre tendrement entre ses bras. Marcel lui caresse la tête, elle s'embrasse. C'est le moment que choisit Georges Bataille pour crier du fond de l'orchestre, les mains en porte-voix. « Qu'est-ce que c'est que cette embrassade ? C'est une faillite !» Un autre enchaîne, c'est Georges Hunier. « Mais vous jouez comme une porte de prison !» Les acteurs se sont interrompus, les spectateurs médusés se retournent, certains expriment leur mécontentement, mais très vite, Henri Pastoureau et Georges Mouton surenchérissent au balcon. « Ah bah, les bagnes d'enfants !» Le mot est repris à l'orchestre par Yves Tanguy et Georges Hunier et au poulailler par Marcel Jean, Adolphe Acker et André Breton lui-même. Il arrive de tous les coins de la salle. « Ah bah, les bagnes d'enfants ! Ah bah, les bagnes d'enfants !»
On a une séquence qui ressemble du coup pas mal aux séquences autour de Belle-Île-en-Mer où le public, en tout cas les surréalistes, vont crier « Abat les bagnes d'enfants, la fin des bagnes d'enfants ». Voilà, ils vont huer le spectacle, l'interrompre à la grande émotion, bien sûr, de la directrice-actrice et du public. Et...
Un ou deux spectateurs se lèvent, ça suffit, allez-vous-en. Le rideau tombe, les lumières s'allument.
Tout le public se met à se taper dessus et la police intervient et il se retrouve au poste.
On va dire que ça, c'est l'histoire complète. L'évasion, la pièce de théâtre, les surréalistes qui s'en mêlent et tout le monde finit au poste ou presque.
Oui, c'est ça.
En quoi cette histoire, Marie Rondepierre, c'est aussi l'histoire d'Éric ?
Eh bien parce que lui, il a été placé justement à l'âge de 11 ans pendant... près de 10 ans dans un home d'enfants, sur décision judiciaire.
Et cette histoire, il la raconte dans un texte qui s'appelle Placement, qu'il a publié en 2008. Oui. Au cœur de ces pages, il y a quasiment un vécu qu'on pourrait rattacher à celui des filles.
Oui, alors peut-être pas un vécu dans le sens du quotidien ou de... parce que c'est pas la même époque, mais en tout cas dans le fond et dans la solitude, la souffrance, je pense que oui, ça c'est très similaire et même encore actuellement, malheureusement, ce sont des sentiments qu'on ne peut pas connaître si on ne les a pas vécus.
Je reste seule, mais sans ressentir la solitude. C'est une sensation que je ne connais pas encore. Seulement la panique. Le sol qui se dérobe. On tombe. Je comprends confusément que la séparation officielle, la vraie, sans rémission, a lieu maintenant. Les gestes mécaniques. Je les fais, les refais, absent. La solitude peuplée. Il s'agit d'une maladie trouble dont la médecine légale ne peut avoir conscience. La solennité de ma propre route, je ne la partage avec personne. Mais peu à peu, je réalise qu'il y a là tout ce qu'il faut pour attendre. Il paraît qu'en espagnol, on utilise le même mot pour dire attendre et espérer. J'ai été espagnole très longtemps. Plus tard, une pensée unique ne me lâche plus. Sortir. Quelquefois, encore maintenant, 40 ans plus tard, je fais ce rêve. Je m'échappe de cette maison. On essaye de me rattraper. Je me réveille.
Les évadés de Billancourt, avec Marie Rondepierre et l'historienne Véronique Blanchard. Extrait de Fugue opus 36 d'Éric Rondepierre, dit par Renaud Bertin Cordoliani et Pauline Ziadé. Une histoire particulière, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Sandrine Chaperon, prise de son Benjamin Troncin, mixage Antoine Viossa, réalisation Gilles Blanchard, un documentaire de Michel Pomarègue.